Donc je vais conduire cette retraite avec Patricia pendant ces quelques jours que nous allons passer ensemble. C'est toujours réconfortant de voir qu'il y a combien de personnes reviennent malgré ce qu'on leur fait subir à chaque retraite. Mais ça pose un petit problème, c'est qu'on ne peut pas raconter toujours les mêmes histoires, donc il faut en trouver d'autres. Voilà, donc parce qu'autrement on les avait déjà entendues, on commence et puis vous pouvez déjà les terminer parce que vous connaissez la suite. Donc, essayer de varier un petit peu, parce qu'en général, les histoires que nous choisissons pour illustrer sont quand même celles qui nous semblent les plus claires, les plus parlantes, et non pas simplement parce que comme tout le monde, on aime bien entendre des histoires, donc parce qu'elles illustrent quelque chose. Donc dans une retraite, ce dont il s'agit, c'est de vous-même. Pas vous en tant que groupe, mais on pourrait dire c'est de toi-même, de chaque personne. C'est de ce dont il s'agit. C'est à rien de regarder autour de soi. C'est pas là que ça se passe, c'est en soi-même. Et c'est quelque chose d'assez rare. Que ce dont il s'agit, c'est de soi-même, uniquement, essentiellement. Donc je vais commencer par une petite histoire, quand même, que certains ont déjà entendue, mais je crois que ça fait un tout petit peu de temps que je ne l'ai pas racontée. Donc j'espère que vous l'avez oubliée. Mais c'est un passage tiré du Mahabharata, donc cette épopée indienne. Texte fondamental pour la tradition indienne et la religion indienne. Donc dans le Mahabharata, c'est une guerre fratricide, en fait, entre deux factions de cousins qui se battent à mort. Et le passage que je vais choisir, c'est la rencontre de ces valeureux guerriers de camps opposés, mais qui sont pas vraiment, qui ont pas vraiment envie de se battre. Ils ont été engagés dans cette bataille parce qu'ils appartiennent à un clan opposé, mais n'ont pas envie de se battre. Mais néanmoins, c'est le moment où un des plus valeureux guerriers est en train de mourir. Bhishma est en train de mourir et Yudhishthira, le chef de l'autre camp, s'approche de lui et lui dit combien il a horreur de cette guerre et que chaque guerrier qui tombe sur le champ de bataille, quel que soit son clan, pour lui, c'est insupportable, c'est quelque chose d'extrêmement pénible. Donc il exprime ceci à Bhishma qui est en train de mourir. Voilà, il a reçu des flèches, il a reçu des coups, il est en train de mourir. Et puis Yudhishthira, le chef du camp opposé, vient lui dire combien tout ça lui semble absurde. À ce moment-là où on est vraiment sur un point très important, puisque ce guerrier presque invincible qui était Bhishma est en train de mourir. Et l'autre guerrier valeureux vient lui dire que ça n'a pas de sens. C'est une guerre ou la vie qui finalement doit aboutir de cette façon-là. Alors Yudhishthira dit à Bhishma, ce guerrier qui est en train de mourir, ce guerrier valeureux, est extrêmement vieux d'ailleurs, qui est en train de mourir, il dit, j'ai entendu parler au cours de mes voyages d'un jeune homme éternel qui aurait dit ceci, la mort n'existe pas. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Alors Bhishma lui pose la question, il est ici. Yudhishthira se retourne, il voit un jeune homme qui se tenait debout près de lui avec un visage calme et beau. Et lui dit, c'est toi le jeune homme éternel? Il lui dit, oui, c'est moi. Il dit, d'où viens-tu? Intéressant la question, d'où viens-tu? Il dit, je viens de nulle part, je suis là. C'est un jeune homme éternel, il ne peut pas venir de quelque part, donc je viens de nulle part, je suis là. Il dit, tu as dit, la mort n'existe pas. Il dit, je l'ai dit. Pourtant, même les dieux pratiquent des pénitences pour obtenir de ne pas mourir. Il dit, oui, mais moi, je dis que la mort, c'est la distraction, qu'elle est la confusion, et que la présence, c'est l'immortalité. Voilà, on a, si vous voulez, un peu aussi l'enjeu ici de ce que on pratique en méditation, même si le bouddhisme ne parlerait pas d'immortalité, c'est pas tellement la manière d'aborder les choses, ça semble garder une sorte de saisie sur quelque chose. Le bouddhisme parlerait plutôt de liberté, mais c'est aussi la liberté de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Donc ici, ce que dit ce passage du Mahabharata, c'est que dans le fond, la distraction, la dissipation, ça c'est la mort, et que la présence, ça c'est la vie éternelle. Désigne quelque chose ici d'extrêmement important. Et c'est ce que nous explorons dans la méditation. Donc l'enjeu est très important, c'est pas simplement être un peu plus calme qui est déjà pas mal. Mais il faut quand même pas perdre de vue l'enjeu, qui est un enjeu bien au-delà de simplement un peu plus de calme, un peu plus de tranquillité. L'enjeu est beaucoup plus important. Et je crois que c'est facile d'oublier l'enjeu. On l'évalue quelquefois dans le degré de calme ou de tranquillité qu'on pourrait éprouver. Mais finalement, ce n'est pas ceci dont il s'agit. C'est quelque chose de plus profond. Donc, comme je l'ai dit, c'est dans une retraite, c'est une rencontre avec soi-même. Mais pas une rencontre comme une rencontre de deux personnes, ou comme si on s'observait dans un miroir. C'est une rencontre avec soi-même dans l'unité, où il n'y a pas deux aspects, l'un rencontrant l'autre, l'un évaluant l'autre. C'est pas une rencontre au niveau historique. Voilà, je fais le bilan. Voilà. On arrive au nouvel an, c'est l'époque des bilans. Voilà ce que j'ai passé. Bon, voilà, 2017, il s'est passé ceci, cela. Ça a été plutôt bien, mais il y a eu quelques problèmes. C'est pas ce dont il s'agit, même si ça a une utilité. Mais pour ceci, il n'y a pas besoin de venir au moulinage. On peut faire ça plus tranquillement, quoi, dans un verre de champagne, ça va aussi bien. Donc c'est pas une sorte de rencontre avec soi historique, même si on devait faire un inventaire un peu plus long, ni psychologique, en disant voilà comment je vais plutôt bien. Il y a un peu de joie, un peu de tristesse parfois. C'est pas une rencontre à ce niveau-là non plus, où une partie un peu neutre évaluerait la disposition psychologique du moment. Là, on est encore dans une sorte de distance par rapport à soi-même. Même si tout ceci a une utilité et est très intéressant dans différents contextes, mais ce n'est pas ce dont il s'agit dans la méditation. C'est autre chose, c'est quelque chose d'existentiel qui touche la vie et la mort. Qui touche cette rencontre avec soi-même dans l'unité où il n'y a pas deux. Et ça veut dire beaucoup de choses, une rencontre avec soi-même dans l'unité, où il n'y a pas une partie qui observe l'autre ou qui évalue. Même si on pouvait changer de rôle assez rapidement. On le fait parfois, à nouveau, on doit le faire parfois, mais ce n'est pas ce dont il s'agit. Cette rencontre de soi-même dans l'unité, il n'y a qu'une manière de l'aborder, qui n'est pas dans le faire, ni dans l'observation, ni dans la réflexion, mais c'est dans l'être. Cette rencontre avec soi-même ne peut se passer que comme manière d'être. Être dans l'instant, être là. Selon la manière dont ça se manifeste à ce moment-là. Et là, peut-être qu'on peut comprendre cette rencontre dans l'unité et non pas dans l'observation de soi-même. Donc il s'agit d'être, non pas de faire ni d'observer. Évidemment, ça peut paraître plus ou moins intéressant, mais on peut quand même se poser la question, mais comment ça se fait? Comment on le fait ceci? Être, d'accord, moi je veux bien explorer ça, enfin on a le temps ici, je veux bien explorer être, mais comment est-ce qu'on le fait? C'est pas si simple. Déjà, on peut se rendre compte qu'on ne peut pas être au passé. Même si on a essayé à plusieurs reprises, avec beaucoup de détermination, on ne peut pas être au passé, ni être dans l'avenir. Le seul endroit où cet être peut s'explorer, peut-être se dévoiler ou se découvrir, c'est dans le présent. Donc ça nous donne déjà une bonne indication sur l'attitude dans la pratique de ne pas se préoccuper du passé ni de l'avenir, d'essayer d'explorer, de se dévoiler, de s'ouvrir à ce qu'il a dans l'instant. Maintenant, sans aussi cette évaluation, cette distance qui ferait que on aborderait le présent dans une position de survol pour l'évaluer, pour l'observer, pour le juger. Voilà, c'est ce qui se passe maintenant, etc. Pour le commenter, dans le fond. Mais il s'agit de l'être. Donc on laisse tomber le passé, on laisse tomber l'avenir, et on laisse tomber aussi l'évaluation de ce qui se passe dans le présent. Parce que cette évaluation, elle nécessite une distance. Et que c'est justement ce dont on essaye de se libérer, de se dégager, de cette distance. Là, il y a quelque chose d'essentiel, de profondément significatif pour nous. Au-delà de différents états qu'on pourrait éprouver, de bien-être, de calme, de tranquillité, ou au contraire d'agitation, de somnolence, de fatigue, bien au-delà de ceci, ce qu'on peut rencontrer là, cet être est synonyme dans la tradition bouddhique et dans l'expérience de liberté, au-delà de tout jugement. Et je crois qu'on a bien de la peine dans la méditation à se libérer l'idée, de la notion que on ne vise pas des expériences. Et en méditation, on aimerait bien avoir des expériences méditatives. Ça semblerait intéressant. D'ailleurs, c'est sûrement intéressant, c'est fascinant, mais c'est pas ce dont il s'agit. J'ai vu dernièrement un reportage sur la spiritualité, l'infini, ça s'appelle la danse de l'infini, avec beaucoup d'orateurs extrêmement compétents, ou je ne sais pas, connus, etc. Et ce dont il parlait, presque tous, c'était d'états altérés de conscience. Je pense chacun selon sa voie, son système, certains avec des champignons, des drogues, d'autres peut-être d'autres systèmes, mais ce qui m'a frappé, c'est combien ça ne me parlait pas. Alors, j'ai rien contre les états altérés de conscience, non. Non pas que ce soit mes promenades dominicales, je veux dire, je connais pas grand-chose là-dedans, mais je veux bien imaginer que c'est fascinant. Mais état altéré de conscience, qu'est-ce que ça pourrait bien nous apporter en soi-même dans le quotidien? Parce que ces états altérés de conscience, s'ils sont altérés, ils vont revenir dans quelque chose de plus normal ou habituel. Donc quelque chose de passager finalement. Oui, ça serait chercher des expériences qu'on peut atteindre aussi par la méditation, mais lorsqu'on croit que c'est ce dont il s'agit, on rate l'essentiel. On pourrait dire que du point de vue de la méditation bouddhique, c'est exactement l'inverse. On cherche l'état le plus ordinaire de la conscience. Justement, celui qui est tellement ordinaire quand on a enlevé tous les fantasmes, toutes les histoires qu'on se raconte et qu'on vient à ce qu'il y a de plus simple, dépouillé de tout ce qu'on rajoute. Et dans cet état le plus simple, dépouillé de tout ce qu'on rajoute par confusion, par nécessité, par inquiétude, on a mille bonnes raisons de rajouter des choses. Mais lorsqu'on arrive à se défaire de tout ceci, à ce moment-là, dans cet état le plus ordinaire de la conscience, on se rend compte qu'il y a une dimension extraordinaire, qui est justement celle d'être et de liberté. Donc on est dans quelque chose qui me semble assez, une orientation assez différente. Quand j'entendais ces orateurs brillants et des gens qui sont vraiment, je sais pas, enfin, en tout cas qui parlent souvent, quoi. Eh bien, il y avait une sorte de fascination pour ces états altérés. Quelque chose de spécial. Donc, il semble être une autre manière de dépendre, une autre manière de dépendance, une autre manière de conditionnement. Alors que revenir à la découverte de ce qu'il y a de plus ordinaire dans notre manière d'être, justement, dépouillé de tout ce qu'on pourrait vouloir rajouter, qui serait dans le fond des tentatives de pouvoir éprouver des états altérés de conscience, mais tentatives modestes, sans prendre de drogue ou je ne sais pas quoi, mais avec le pouvoir de notre imagination ou du souvenir et autres, quand même d'avoir un peu des expériences. Lorsqu'on se dépouille de ceci, justement, c'est là qu'on découvre cet être ordinaire qui est tellement extraordinaire et qui découvre la dimension de liberté. Mais évidemment, quand on dit ça, après, on ne sait plus quoi dire. Parce que si on vise des états, des expériences, alors on peut commencer à donner un protocole, un manuel pour avoir ces expériences-là. Alors il faut passer par A, B, C, D. On peut commencer à... Si on se met en chemin vers l'extraordinaire, alors on peut dire qu'est-ce qu'il faut avoir dans ses bagages, etc. Mais quand on vise ce qui, au contraire, est le plus ordinaire, alors il n'y a pas besoin de bagages particuliers. Pas besoin de GPS. Mais au contraire, se défaire un peu de tout ceci. Et je crois qu'un point est important, parce que dans cette simplicité, on rencontre aussi toutes nos habitudes. Donc cette simplicité ne veut pas dire que la méditation est si facile. On va dire, ah, mais quand même, j'ai de la distraction, je m'attache aux souvenirs et autres, comme si j'étais pas très doué. C'est pas ceci. On a une grande habitude. Mais un des points importants, c'est de se rendre compte qu'il ne s'agit pas de viser des expériences méditatives. Parce qu'autant qu'on croit qu'il s'agit de viser des expériences méditatives, alors on va essayer de passer en contrebande ici, dans nos poches, etc. Quelques petites astuces pour atteindre ces expériences. Et le pire, c'est que des fois, on atteint les expériences. Wow, j'ai réussi, c'était chouette, etc. Si je pense à mes maîtres dans la tradition bouddhique, alors de différents horizons, qu'ils soient birmans, occidentaux ou tibétains, je les ai rarement, ou je crois jamais entendu parler d'état altéré de conscience. Ça n'a jamais eu cette sorte de fascination pour quelque chose d'autre. Il y a bien eu certaines expériences, mais toujours avec un grand soin d'attirer l'attention sur les élèves que les expériences étaient éphémères, n'étaient pas essentielles. Donc il y a là, à mon avis, quelque chose pour moi qui est extrêmement fort, c'est de revenir à cette simplicité de l'expérience dans l'instant. Maintenant, on peut se dire comment est-ce qu'on découvre cet être dans l'instant, être que nous sommes. On n'a pas fait d'être quelque chose de spécial maintenant. va laisser tomber les états altérés de conscience pour faire quelque chose de spécial de l'être. Mais simplement, ce fait d'être là, dans la vie à cet instant, dans la manière dont elle se manifeste en moi-même. Elle peut se manifester dans l'audition, lorsqu'il y a l'audition. C'est là qu'est ma manière d'être. Je suis là, entendant. Mais totalement là, dans cette audition. Il ne manque pas quelque chose, ou en train de voir quelque chose, ou d'éprouver le corps dans ce qu'il a de tangible, de concret. D'être là, ce corps, dans ce qu'il a de concret, de tangible. Non pas parce que je l'évalue, mais parce que je le suis. Je peux l'être si je ne cherche pas autre chose. Et si je cherche maintenant à libérer un peu mes épaules qui sont quand même un peu coincées, et puis voilà, ouais, il y a aussi, il y a plein, on peut toujours se réajuster. Là, on peut passer un siècle à se réajuster, il y aura toujours des petits trucs à réajuster. Mais il y a d'autres lieux, on peut faire ça avec des gens qui peuvent nous aider d'ailleurs à réajuster s'il y a des choses à réajuster, Dieu merci. Donc simplement le fait d'être là, corporellement, dans la manière dont cet être-là corporellement se manifeste, avec ses imperfections de manifestation, pas l'être. L'être, il lui manque jamais rien. Les sensations, elles peuvent parfois, présenter quelques intensités qui sont désagréables. Donc dans l'audition, ça peut être dans cette présence corporelle, ça peut aussi être dans le souvenir, dans l'imaginaire, etc. Mais c'est un peu plus difficile de découvrir comment on est dans l'imaginaire ou dans le souvenir, parce qu'en général, on est emporté par ceci. Une manière pour nous d'halluciner un petit peu. Même si quelquefois ces souvenirs peuvent être difficiles. Mais néanmoins, on découvrira dans la méditation qu'on découvre de la même manière, cette manière totale d'être là, dans l'imaginaire, dans le souvenir, dans la pensée. Dans la mesure où on n'y adhère pas, c'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas comme une expérience particulière, mais comme manière d'être. Voilà, j'espère que je décris bien. Après, il n'y a plus d'excuses, hein, pour. Dans toute expérience, on peut découvrir ceci. Mais il est vrai que lorsqu'on s'assied, s'il y a beaucoup de souvenirs qui devaient surgir, ou d'anticipation du futur, ou de l'avenir pour une raison ou une autre, il est vrai que le défi là est un peu plus compliqué, et donc il est bien de revenir à la présence corporelle parce que c'est plus simple. Mais pas parce que c'est une exigence. Il y a toujours les dangers lorsqu'on revient au corps ou à la respiration comme manière d'essayer d'explorer un peu cette présence. Tout d'un coup, on tombe dans le biais comme si la présence devait passer par la respiration ou la présence corporelle. Comme si lorsque je me surprenais à être distrait, fallait que je revienne à la respiration parce que c'est comme ça qu'on est présent. Vous voyez, on sélectionne la présence, c'est la respiration ou le corps. La présence, c'est dans n'importe quelle expérience qui soit présente. Elle n'est pas dans la somnolence, pas dans le sommeil, dans la somnolence, mais pas dans le sommeil profond. Enfin, en tout cas, là, je ne peux pas vous guider, je ne connais rien à ce propos-là, je dors. Donc là aussi, un biais dont il faut se méfier. J'ai souvent parlé de la somnolence comme lieu très intéressant d'exploration de la présence. Alors, certaines personnes disent, je ne comprends pas comment on peut être présent dans la somnolence. Oui, ce qui peut bien se concevoir, mais la première élément, c'est de ne pas croire que la somnolence s'oppose fondamentalement à la présence. Parce que si on croit que c'est un obstacle, qu'il faudra toujours éliminer la somnolence pour être présent, à ce moment-là, on ne va jamais découvrir comment on peut être présent dans la somnolence. Le problème, c'est quand on commence comme ceci, l'agitation non plus ne va pas, finalement, il y a très peu de choses qui vont pour être présent. Donc, pour être présent dans la vie, quand il se passe vraiment pas grand-chose, quoi. Le reste, c'est sans espoir. Donc il faut essayer d'avoir une vie où il se passe presque rien, puis là on aura une chance d'être présent. Donc un appauvrissement. Donc tout ceci, c'est simplement pour montrer que le préjugé qu'on a par rapport à la pratique va aussi nous compliquer la vie. Va faire qu'on va se battre contre ce qu'il y a dans l'instant, on va se battre contre la somnolence, contre les souvenirs, contre ceci, contre cela, contre la douleur. Et finalement, on va toujours être en train de préparer un terrain pour qu'un jour on puisse être présent, mais comme on prépare toujours le terrain, eh bien, ça sera demain qu'on sera présent. Alors que dans cette préparation, s'agit d'être présent. Donc on peut se donner le cadre lorsqu'on se donne de revenir plus particulièrement au corps, la présence corporelle, même dans certaines zones, même dans la zone où la respiration est éprouvée. Ça peut être des moyens judicieux, et c'est bien d'y revenir, mais sans croire que c'est le lieu où on doit aller pour être présent. On l'utilise comme moyen d'exploration, comme tremplin, si vous voulez, ou comme échafaudage, mais ça ne veut pas dire que la présence est limitée, elle doit passer par la présence corporelle ou par l'attention à la respiration. Même si c'est des aides, et il est bien de les utiliser parfois et même peut-être souvent. Lorsqu'on s'engage dans la méditation, on est tout seul. Si on allait, je ne sais pas, même si on allait faire une excursion en montagne, même compliquée, peut-être à l'Everest, je ne sais pas, on pourrait avoir un guide, des gens qui nous disent non, non, attention, va pas là, c'est un peu dangereux, c'est trop difficile, va ici, parce que la personne de l'extérieur qui serait ici le guide pourrait voir ce qui se passe. Mais dans notre méditation, il n'y a personne pour dire t'es trop à droite, va un peu plus à gauche, on est seul dans cette exploration. Donc il est important d'avoir une information qui soit le plus clair possible, le plus simple possible. Parce que si on vient avec une information fausse, qui serait justement, il faut tellement éliminer de type d'expérience, on risque de tourner en rond. Et ça peut durer des années. Il y a des personnes qui tournent en rond depuis des années. Je parle en connaissance de cause. Je ne sais pas si j'ai arrêté de tourner en rond, mais j'essaie d'écouter ce que je vous dis de temps en temps. Donc ça c'est important parce que vraiment quand on est dans sa pratique, c'est à soi-même de la guider, de guider sa méditation si on veut parler comme ceci. Il n'y a personne de l'extérieur qui peut intervenir. Donc si on a une information confuse avec des préjugés, et il y en a pas mal quand même, alors à ce moment-là, on va se compliquer la vie de méditant, de méditante. Donc par moment, il est bien de réfléchir. Tiens, qu'est-ce que je fais en ce moment? On est dans la pratique, on a l'impression que on tourne en rond, ou que c'est fatigant, que on s'épuise. Oh, après cette assise, je suis fatigué, ou après cette journée, je suis vraiment épuisé. Ça peut venir du peu de sommeil qu'on a eu dans ces derniers jours, mais quelquefois, ça vient de l'attitude dans la pratique elle-même. Et là, de se dire, mais dans le fond, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de faire? Alors, ah, mais je veux ceci, ou je veux éliminer cela. Mais je veux ceci, je veux éliminer cela. Je suis déjà en train d'avoir un préjugé qui fait que je pense que ceci n'est pas bon dans ma méditation et que ceci serait meilleur. Et ça complique la vie. Donc, par moment, surtout quand vous avez l'impression qu'il y a des difficultés, c'est bien de vous rendre compte qu'est-ce que je suis en train de faire? Quelle est mon attitude par rapport à la pratique à ce moment-là? De revenir sur la compréhension que vous avez au sujet de la pratique. Voilà, je voudrais bien qu'on passe à un petit peu de pratique maintenant. Donc, prenez une position confortable. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, simplement pour être moins attiré vers l'extérieur. Et lorsque vous fermez les yeux, simplement comme ceci, qu'est-ce que vous éprouvez? Vous êtes en vie, vous n'êtes pas dans un sommeil profond, donc il y a quelque chose, votre présence se manifeste sous un aspect ou un autre, sous l'aspect d'audition, du son de ma voix quand je parle, de sensation corporelle, il y a une présence du corps qui est là, plus ou moins claire, dans sa densité. C'est l'expérience d'une certaine température. Peut-être une certaine fatigue. Mais s'il n'y avait personne sur votre coussin, rien de ceci ne serait éprouvé. C'est bien parce qu'il y a là une personne consciente, présente, que tout ceci peut se manifester et être pris en conscience. Il est sûr qu'il y a quelqu'un sur le coussin où vous êtes assis. Et cette certitude vient justement du fait qu'il y a quelque chose dont on est conscient. Fait qu'on est conscient de quelque chose. Peu importe ceci ou cela. Cette conscience de quelque chose n'a pas besoin d'être observée, il suffit d'être simplement là avec ça. Sans se préoccuper de ce qui se passe autour de soi, mais éprouver simplement cette densité du corps, son aspect tangible. Peut-être de la fatigue, peut-être un peu de joie de pouvoir être tranquille pendant quelques instants. Mais on est aussi respirant, manière d'être. L'organisme est vivant. Et on est cet organisme vivant. Vous êtes dissipé ou fatigué, vous pouvez très bien sélectionner une zone d'expérience présente. En cet instant, évidemment, on peut éprouver la respiration dans une certaine zone du corps. Ou être dans la présence du corps dans sa totalité, ou dans une zone plus limitée, dans les mains ou dans l'abdomen ou dans la poitrine.